Il est 7h, vous écoutez France Culture et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une erreur monumentale, c'est ainsi que l'Arabie Saoudite qualifie la mort du journaliste Jamal Khashoggi dans son consulat d'Istanbul, alors que le corps du journaliste reste introuvable. Le président turc menace de révéler la vérité. Précision de notre correspondante à Istanbul dans un instant.
L'Allemagne suspend l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite jusqu'à ce que les circonstances exactes de la mort du journaliste soient éclaircies.
L'Europe hausse le ton dans l'affaire Khashoggi, nous dira Lakshmi Lotha à Bruxelles.
Et puis comme un relent de guerre froide.
Mikhail Gorbatchev sort de son silence pour exhorter Donald Trump à ne pas retirer les États-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire.
Et puis le lycéen de 15 ans qui a braqué sa professeure avec une arme factice en salle de classe à Créteil a été mis en examen hier soir pour violence aggravée.
La vidéo a circulé tout le week-end provoquant l'indignation. Que propose le ministère de l'Éducation? Principalement l'interdiction du téléphone au lycée, nous dira Grégoire Lecalot. Et puis de fortes inquiétudes pour l'indépendance et l'avenir de trois fleurons de la presse écrite, notamment Le Monde et Ouest France. Analyse à suivre avec Éric Chavroux à la fin de ce journal. Et puis la question du jour, Guillaume.
Dans une dizaine de minutes, Sophie, Brexit, faut-il vraiment prévoir le pire? Nous poserons la question à Marc Roche, qui est chroniqueur au Point et qui a notamment publié « Le Brexit va réussir ».
Le président turc menace de révéler les circonstances de la mort de Jamal Khashoggi. Riyad a reconnu dans la nuit de vendredi à samedi que le journaliste saoudien a bien été tué dans son consulat à Istanbul. Une bagarre qui aurait mal tourné selon le ministre saoudien des Affaires étrangères. Le dirigeant turc, resté très discret jusqu'ici, a annoncé hier qu'il ferait une déclaration demain devant le Parlement. Recep Tayyip Erdogan monte donc au créneau tout en entretenant le suspense, alors que Riyad continue de nier toute responsabilité. À Istanbul, les précisions d'Anand Lower.
Pendant que le ministre saoudien des Affaires étrangères, interviewé dimanche par la chaîne américaine Fox News, qualifiait d'erreur monumentale la mort de Jamal Khashoggi, continuant toutefois de disculper les autorités du royaume et d'affirmer ne pas savoir où se trouve le corps du journaliste, les enquêteurs turcs étaient toujours officiellement à la recherche de ce corps. Car seule une autopsie permettrait sans doute de dire ce qui est précisément arrivé à Jamal Khashoggi. Selon la chaîne Al Jazeera, qui cite une source anonyme au parquet d'Istanbul, la Turquie détiendrait des preuves que le journaliste saoudien a bien été victime d'un crime prémédité. La même source confirme que la justice turque a reçu de Riyad les déclarations officielles de 15 suspects saoudiens, sans réclamer pour l'heure leur extradition. Peu après la disparition de Jamal Khashoggi, Ankara avait accusé, au moyen de fuites dans la presse, une équipe de 15 saoudiens d'être venus à Istanbul pour assassiner le journaliste, avant de rentrer à Riyad quelques heures plus tard. L'Arabie Saoudite a annoncé de son côté l'arrestation de 18 personnes sans préciser leur identité. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a promis de révéler de nouveaux détails sur l'enquête, a notamment fait allusion à cette mystérieuse équipe. Pourquoi ces 15 personnes sont-elles venues ici? Pourquoi 18 personnes ont-elles été arrêtées? Je vais le raconter de façon très différente, a lancé le chef de l'État, qui doit donc s'exprimer mardi devant son groupe parlementaire.
Dans le sillage de Donald Trump, qui réclame des explications crédibles sur la mort du journaliste, Londres, Paris et Berlin ont signé hier un communiqué commun dans ce sens, annonçant également le boycott du Davos du désert, le forum économique et vitrine de l'Arabie Saoudite qui commence demain à Riyad. Les précisions à Bruxelles de Lakshmi Lotha.
Londres, Paris et Berlin estiment dans un communiqué commun qu'il y a un besoin urgent de clarification sur les circonstances de la mort inacceptable du journaliste saoudien. Que s'est-il exactement passé le 2 octobre, au-delà des hypothèses jusqu'ici évoquées par l'enquête saoudienne, interrogent les Européens. L'Arabie Saoudite doit donner des faits pour expliquer ce qui est arrivé au journaliste Jamal Khashoggi pour être considéré comme crédible, peut-on encore lire ? Les pays soulignent qu'il faut faire davantage pour établir la vérité et les responsabilités pour les crimes commis. Même demande de la part de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. L'Union européenne, comme ses partenaires, insiste sur la nécessité d'une enquête approfondie, crédible et transparente. La chancelière allemande a également annoncé une mesure immédiate, la suspension de l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite jusqu'à ce que les circonstances exactes de la mort du journaliste soient éclaircies. Tout n'a pas été dévoilé, insiste Angela Merkel. Des responsables occidentaux et des dirigeants de firmes internationales ont également annoncé le boycott d'une grande conférence économique chère au prince héritier. Elle est prévue à Riyad à partir de demain.
Lakshmi Lotha à Bruxelles pour France Culture. Dans le dossier du Brexit, Theresa May doit informer aujourd'hui le Parlement britannique de l'état des négociations avec Bruxelles. La Première ministre britannique estime que l'accord est prêt à 95%, à l'exception de la question de la frontière irlandaise. Et toujours en Europe, Rome doit répondre ce matin à la Commission européenne à propos de son budget. Alors que Bruxelles fait pression pour que l'Italie revoie la prévision de son déficit, prévu à 2,4% de son PIB.
7h05 sur France Culture, c'est la suite du journal de Sophie Delpont. Mikhail Gorbatchev est sorti de sa retraite pour appeler Donald Trump à la raison.
Oui, le dernier dirigeant de l'Union soviétique s'est dit très inquiet de la décision du président américain de retirer les États-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée moyenne. Un traité que Mikhail Gorbatchev avait signé en 1987 avec Ronald Reagan. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Rare dans les médias depuis de nombreuses années, Mikhail Gorbatchev est sorti de son silence après que Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis du traité sur les armes nucléaires de moyenne portée. Le co-signataire de ce traité avec Ronald Reagan en 1987 n'a pas de mots assez durs pour qualifier la décision américaine dont il pense qu'elle va à l'encontre de la politique de désarmement nucléaire. Il estime qu'elle saborde tous les efforts déployés par les dirigeants de l'URSS et des États-Unis pour justement parvenir à ce désarmement nucléaire. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique parle même d'erreur, estimant qu'il faut préserver les accords sur le désarmement dans la mesure où ils contiennent ce qui ne se trouve pas dans les autres documents, à savoir le fait de prévoir un contrôle. L'artisan de la perestroïka va plus loin en confiant à l'agence Interfax qu'il est nécessaire de s'insurger contre la maladie qui s'appelle le désir de ne pas respecter les traités et accords signés en matière de désarmement nucléaire, appelant tous ceux qui chérissent un monde sans armes atomiques à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils fassent marche arrière. Mikhail Gorbatchev, l'homme auquel l'Occident avait promis que l'OTAN ne serait pas élargie aux pays de l'Est de l'Europe et qui s'était contenté de la parole des dirigeants, a encore fait savoir qu'il partageait pleinement la position de Vladimir Poutine, qui réclame la mise en œuvre des accords signés.
Jean-Didier Revoin à Moscou pour France Culture. Près de 7000 personnes venues du Honduras, un immense cortège commence à entrer au Mexique depuis hier. 640 de ces migrants ont été autorisés à entrer par les autorités et continuent d'avancer en ce moment. Si vous nous renvoyez, nous reviendrons. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des travailleurs, chantent en ce moment certains d'entre eux dans cette caravane de migrants qui souhaitent passer la frontière des États-Unis. Hier soir, Donald Trump a prévenu sur Twitter que les efforts étaient mis en place pour stopper le déferlement d'étrangers illégaux, ajoutant que les migrants devaient d'abord faire une demande d'asile au Mexique avant de faire une requête aux autorités américaines. Hier après-midi, plus de 3400 migrants honduriens avaient déjà été renvoyés chez eux lors de ces dernières 48 heures, selon une ONG dirigée par l'épouse du président hondurien.
Le lycéen de 15 ans qui avait braqué sa professeure avec une arme factice en plein cours a été mis en examen hier pour violence aggravée.
L'agression a été filmée et très largement diffusée sur les réseaux sociaux. L'adolescent réclamait que sa professeure le note comme présent alors qu'il était en retard, en la braquant avec un revolver factice en pleine classe. Les faits remontent à jeudi. Les images ont circulé depuis vendredi et provoqué l'indignation tout ce week-end. Le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur et de l'Éducation nationale de prendre des mesures pour éviter de tels actes dans les établissements scolaires. Et les deux ministres ont révélé quelques pistes de travail hier. Grégoire Le Callot.
La vidéo ne dure que quelques secondes, mais elle suffit à provoquer un sentiment glaçant.
Ce sont des actes complètement inacceptables.
Face à l'indignation, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a assuré que l'institution n'avait pas tardé à réagir.
Nous avons porté plainte dès vendredi. Les deux élèves ont été mis en garde à vue. Les suites judiciaires sont prévues. Et puis par ailleurs, le processus menant aux sanctions disciplinaires a commencé pour qu'il puisse évidemment y avoir une sanction ferme pour ces faits qui sont inacceptables.
Les deux élèves, celui qui menace sa prof et celui qui introduit le faux pistolet dans le lycée. Priés samedi par le président de la République de prendre des mesures, Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer vont rendre une copie conjointe.
Il y a des sujets qui relèvent de l'éducation nationale stricto sensu, et puis il y a des sujets qui relèvent malheureusement d'importation par nos écoles, collèges et lycées de problèmes qui existent à l'extérieur. Et ces problèmes, nous devons les traiter conjointement avec le ministre de l'Intérieur, par exemple en faisant face aux phénomènes de gangs, aux phénomènes de trafic de drogue, par exemple, tous ces sujets qui sont autour de nos établissements et qui les polluent.
Un comité stratégique va donc plancher sur les moyens d'alerte, d'accompagnement, de prévention et de sanctions, précise Christophe Castaner, mesures qui doivent être annoncées cette semaine.
Grégoire Le Callot. La presse française inquiète pour son avenir avec pas moins de 3 évolutions d'ampleur en ce moment, des évolutions qui mobilisent actuellement des centaines de journalistes. En question, le fonctionnement du groupe Ouest-France, l'indépendance du groupe Le Monde et l'avenir du groupe de magazine Mondadori, Éric Chavroux.
Nous ne voulons pas devenir des chargés de contenu, des communicants au service de marques. Jeudi dernier, une partie des 700 CDI du groupe Mondadori a manifesté devant le ministère de la Culture avant que leur intersyndicale ne soit reçue. Ces plumes de titres comme Science et Vie ou Grazia craignent leur rachat par le groupe spécialisé dans le numérique ReWorld, avec un métier revu au rabais et des journaux comme Biba et Closer menacés selon leurs représentants. Le troisième groupe de magazines français est ainsi dans la tourmente, alors que ses effectifs ont déjà fondu ces dernières années. Autre restructuration pour le groupe du premier quotidien français, Ouest France. Il s'agit cette fois de mutualiser les contenus des 4 titres du groupe, avec 56 suppressions d'emplois à la clé. La mobilisation des salariés est historique et des négociations doivent reprendre demain. Au Monde, enfin, c'est une alliance stratégique avec le groupe du milliardaire tchèque, Daniel Křetínský, qui inquiète. Le banquier Mathieu Pigas négocie en effet ses parts avec celui qui a déjà racheté l'hebdomadaire Marianne et s'apprête à avaler une série de magazines du groupe Lagardère, dont Elle. C'est dans ce contexte que plusieurs organisations professionnelles de la presse écrite viennent de s'allier pour mieux défendre leurs intérêts, notamment face aux géants du numérique, alors que les revenus publicitaires chutent et que Presstalis, le principal service de distribution de la presse papier en France, est dans une situation critique.
Économie de la presse, où va le monde? Ce sera l'un des thèmes de ces matins à partir de 7h40 avec votre invité Guillaume Erner. Votre invité qui sera Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris. En attendant, un petit point sur la météo. Le soleil domine sur la majorité du pays aujourd'hui, à part de la pluie sur le nord ce matin. Mais le temps devrait se dégager progressivement au fur et à mesure de la journée. Les températures sont plus fraîches aujourd'hui avec 9 degrés à Belfort ce matin, 13 à Lyon et à Lille, 14 degrés à Paris et jusqu'à 19 degrés au bord de la Méditerranée.